Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour, bienvenue à tous. Nous voilà de retour sur Aligre FM dans les arènes de l'écologie pour la première émission de la saison, de cette nouvelle saison 2 pour les arènes de l'écologie. Vous aurez tous remarqué, on est à peine revenu, qu'il pleut déjà, que c'est déjà la grève et qu'on n'a toujours pas de ministre de l'Environnement, une nouvelle fois. C'est comme quoi les années... reviennent et c'est presque toujours pareil, mais bon.
Et peut-être qu'on va avoir un ministre du climat.
Ah, tu crois? On sait jamais, après tout. Qu'est-ce qui peut nous sortir du chapeau, là?
Un ministre de la mer.
Un ministre de la mer, ouais.
Ce serait pas mal.
Ah ouais, ouais, bah, si, ouais.
Bon. Comment on orthographie la mer?
Bon, trêve de plaisanterie.
Non, c'est important.
Ou au contraire, on pourra continuer à rigoler quelque temps, mais en tout cas, effectivement, on se retrouve encore dans une période intermédiaire. Mais bon, justement, on avait invité la ministre de l'écologie, mais bon, elle n'est plus là. On a une absence.
On a une excuse, là.
Oui, là, au moins, on sait pourquoi. Donc, on a demandé à un ami qui vient de sortir un livre. Mais alors, quand je vous dis un livre, c'est quelque chose. Hein,
c'est un pavé, quoi.
C'est un pavé, 346 pages. Vous imaginez.
Oui, mais c'est quel sujet?
Eh bien, c'est comment bien traiter l'environnement dans les médias. Donc, autant dire que ça nous concerne en direct.
Ah, ouais.
Donc, écoutez, et cette personne, c'est Valérie Laramée de Tannenberg. Et puis, ce livre, Valérie...
Il ne l'a pas fait tout seul.
Il ne l'a pas fait tout seul.
Il ne l'a pas fait tout seul, effectivement.
Alors, donc tu l'as fait avec Béatrice Hérault.
Exactement.
Qu'on ne connaît pas bien.
C'est un travail qu'on porte depuis plusieurs années avec Béatrice. Et l'idée était de... Plus exactement, je fais un petit retour en arrière. Ça fait 30 ans que je dirige des rédactions.
D'accord.
Et j'ai toujours vu mes journalistes avoir de très sérieuses lacunes, que ce soit d'ordre juridique, surtout d'ordre historique et parfois scientifique, sur les questions d'environnement. Et ça m'a fait phosphorer longtemps. Béatrice avait la même réflexion. On s'est retrouvés pour se dire il faudrait coucher tout ça sur le papier pour expliquer non seulement à nos confrères et consoeurs, ceux qui sont en poste et ceux qui arrivent, mais aussi finalement à toutes les parties prenantes de l'information environnementale, les communicants, qu'ils soient dans les entreprises, les collectivités, les ministères, comment bien traiter l'environnement dans les médias, que ce soit un média public, privé. Et donc on a...
C'est tous les médias.
Tous les médias, parce que finalement...
C'est pour ça qu'il y a les pages en plus.
On travaille tous de la même façon. Je veux dire, on collecte des données, on les analyse, on les recontextualise et on essaie de raconter tout ça le plus objectivement possible. Donc, tout ça pour dire que le métier de journaliste environnemental, s'il est complexe, c'est du journalisme à part entière. Simplement, on manie beaucoup de données différentes qu'il faut avoir en tête.
Alors, effectivement, c'est un sujet vaste, avec des contours, des limites floues. Que le problème de l'environnement, c'est aussi son périmètre, c'est-à-dire que c'est pas toujours bien... bien circonscrit, bien cerné. Donc, ce livre qui est aux éditions Edisens, donc par Charles-Henri Dubail, qui était, je crois aussi, éditeur de presse environnement.
Absolument. Charles-Henri Dubail avait hérité, il y a fort longtemps, d'un petit magazine professionnel qui s'appelait Les Annales de la Voirie, qu'il a transformé en quelques années en Environnement Magazine.
C'était le coup du siècle, là. J'ai toujours en travers de la gorge.
Et donc, qui était un magazine qui a eu 150 ans il y a quelques années et qui a traversé les âges et qui est devenu plus ou moins leader sur les secteurs des collectivités locales. Donc on a appris à partir des années 90 avec les élus, avec les services techniques à considérer l'environnement dans sa globalité.
Oui, parce que pour tout vous raconter, donc moi je travaillais plutôt dans un canard qui était, on va dire, à côté à cette époque. Et c'est vrai que c'était presque, on était à faire des, on était tout jeune journaliste dans le secteur. Et les gars d'Environnement Magazine réussissaient à dire, ben nous on a 150 ans d'environnement. Alors ça, c'était un peu, c'était un clin d'œil un peu, c'était presque la concurrence déloyale quand même.
Les archives en témoignent pourtant.
Bon, donc voilà. Alors ceci étant, quand on lit ton livre, tu commences d'abord par refaire une question, remettre les choses en perspective et en histoire. Et justement, ce distinguo entre écologie et environnement, bah c'est passionnant quand on parcourt. Non, c'est pas évident. Alors, en deux mots, tu peux peut-être nous redonner les bases de.
Bah, en fait, c'est selon l'école de pensée dans laquelle on se situe. L'écologie, c'est finalement, c'est la science des interactions entre les êtres vivants et leur environnement. Leur environnement, c'est la façon dont l'être humain, notamment occidental, considère la nature. Donc, c'est une façon de dire, je suis hors la nature, donc je vais la dominer, alors que l'écologie, c'est la vision scientifique du vivant. C'est la façon dont on se situe dans son biotope, dans son biome, et là, dont on interagit avec l'eau, avec les autres êtres vivants, avec ce qui se passe dans l'air ou sous l'eau.
Alors moi, j'avais toujours trouvé que environnement, c'était moins polémique, que ça, c'était un peu plus techno, que c'était plus apaisé,
neutre.
Plus neutre.
Oui.
Et puis je me disais, bah, c'est plus récent, ça vient de la vague post-écologie, de la première vague, on va dire, écologique de 1974, avec René Dumont, qui aura marqué, j'irai de son empreinte, le secteur, du moins c'est un fort repère. Je pensais que l'environnement, c'était plus récent. Mais quand je lis ton bouquin, non, pas du tout.
En fait, les racines plongent dans le XVIIIe siècle. Et puis plus tard, avec les sociétés savantes scientifiques qui gravitaient pour beaucoup d'entre elles autour du muséum d'histoire naturelle. Et on est tout
loin.
À côté ici.
Voilà, tout à fait. Oui. Ouais.
Et donc, puis après, il y a eu des connexions avec certaines associations, puisque des chercheurs ont franchi le pas du militantisme. Je pense en particulier à Jean-Pierre Raffin, qui a été l'un des inventeurs de l'écologie scientifique à l'Université française.
Il ne faut pas confondre avec Jean-Pierre Raffarin.
On ne peut pas confondre, non.
D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut préciser, parce que l'un est quand même plus connu que l'autre.
Absolument. Mais ça dépend dans quel milieu.
Et puis dans l'écologie, il y a cette dimension politique.
Alors effectivement, elle est venue un tout petit peu plus tard, puisque en fait ce que raconte Raffin, c'est de dire, durant les années 60 et 70, les scientifiques allaient voir les hommes et les femmes politiques pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire. Vous pouvez le mettre dans votre programme comme bon vous semble, mais faites-le, parce que c'est une urgence. Il faut sauver la côte ouest de l'Atlantique de l'urbanisme, il faut éviter les premiers dégâts que l'on constatait de l'agriculture intensive, etc., etc. Et ils étaient complètement apolitiques. Leur démarche, c'était juste de dire, ils voulaient injecter de l'environnement, de l'écologie scientifique dans le programme des partis. Évidemment, ça n'a pas marché, d'où la démarche de Dumont, qui a été petitement soutenue par les scientifiques au départ, mais plus les années avançaient, plus les scientifiques se rendaient compte que finalement, l'écologie ne franchissait pas la porte du politique. Donc certains d'entre eux sont partis faire de la politique. Raffin était l'un de ceux-là, puisqu'il a pris sa carte des Verts, il est devenu député européen, il a fini par entrer au cabinet de Dominique Voynet comme conseiller technique. Tout le monde n'était pas d'accord avec cette démarche. Un autre universitaire qui était lui aussi l'un des cofondateurs de l'écologie scientifique, on a voulu à mort à Jean-Pierre Raffin, et alors qu'ils étaient dans le même labo, ils sont fâchés à mort depuis 50 ans.
Ah, bon, ils sont toujours fâchés ou
ils sont toujours fâchés.
Ils sont morts.
Même si l'un et l'autre comprend le raisonnement de son petit camarade, mais ils sont toujours fâchés.
Bon, bah c'est dommage.
Oui. Et vous, vous n'êtes pas fâchés, les deux auteurs de cette...
Non, pour l'instant, on s'entend très bien.
Ça
on est d'accord
bien,
sur tout.
Et chacun a fait une page ou ça s'est passé comment?
Non, chacun. Béatrice a fait l'essentiel de la première partie. Oui. Moi, je me suis cantonné à la seconde. En gros,
Quelle est la première et quelle est la seconde?
Alors, Béatrice est journaliste et formatrice de journalistes. Donc, elle a écrit toutes les parties consacrées à la pratique journalistique. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, les réflexes qu'il faut acquérir, ceux dont il faut se départir, les bons contacts, les mauvais, etc. Donc, essayer de donner aux journalistes en activité et ceux qui sont en apprentissage, finalement, les clés pour faire correctement du journalisme environnemental. Moi, je me suis consacré au fond, c'est-à-dire aux lacunes que j'avais constatées chez mes confrères et consoeurs, donc une initiation au droit de l'environnement, à la science, à l'histoire de l'écologie, qui est souvent oubliée aussi.
Tout à fait. D'ailleurs, je dirais que...
Un exemple.
Ah bah, le bouquin en est truffé d'exemples. C'est ça qui est bien. Il y a plein de cas pratiques.
Sur l'histoire de l'environnement ou pour...
Moi, sur l'histoire de l'environnement, je suis souvent confronté au fait que de jeunes journalistes ignorent qui est René Dumont, par exemple. Alors que c'est quand même l'un des inventeurs de l'écologie politique. Ils ne savent pas... que le parti Les Verts, c'est une confédération de micro-partis qui se sont unis, qui avaient des positions différentes, et ce qui explique encore aujourd'hui, parfois, pourquoi ils ont du mal à trouver une position unitaire. Voilà, des choses comme ça qui paraissent évidentes aux vieux crocodiles que nous sommes, mais qui, pour des journalistes qui arrivent aujourd'hui dans le grand bain vert, n'est pas du tout évidente.
Et alors moi j'ai une question, c'est leur rapport entre... La démarche journalistique et la démarche com. Parce qu'on parlait des communicants tout à l'heure, et est-ce qu'il n'y a pas là une confusion chez...
Non, il n'y a pas de confusion, parce que l'idée, quand on dit qu'on s'adresse aux communicants, l'idée n'est pas de leur apprendre leur métier, ils le connaissent mieux que nous, évidemment, mais l'idée, simplement, de leur dire voilà comment on fonctionne, nous, journalistes, donc vous ne nous aurez pas sur un certain nombre de choses, on est blindés, et puis... Vous, de votre côté, vous pouvez acquérir un certain nombre de réflexes pour ne pas raconter trop d'âneries, parce qu'on est tous d'accord, la communication, c'est de la propagande.
Oui. Mais bon, quelquefois, il faut en faire. Ce que j'ai trouvé passionnant, moi, dans ce bouquin, c'est pas un livre, comment dire, comment faut faire, etc. Ça prend des exemples et ça les décortique.
C'est pas des recettes de cuisine, quoi.
Non, et puis grosso modo, ce que vous avez l'air de dire avec Béatrice, c'est qu'on peut tous faire piéger sur des sujets et qu'il faut par contre au moins avoir une méthode pour éviter de tomber dans le piège. Mais quel serait pour toi l'exemple de, comment dire, le plus...
Représentatif.
Oui, plus représentatif, le cas d'école pour... Il y en a des dizaines dans le bouquin.
Je dirais qu'un cas d'école dans lequel... un piège dans lequel, malheureusement, sont tombés beaucoup de confrères et de consoeurs, c'était l'imposture de Claude Allègre. Claude Allègre, grand scientifique français, grand géophysicien, et effectivement c'était l'un des meilleurs de sa génération, c'est pour une raison qui est encore discutable, à un moment donné, a déclamé que le changement climatique et ses conséquences, c'était une fake news. Enfin, il ne le disait pas comme ça, mais ça équivalait à ça. Et il a écrit plusieurs livres pour le dire, le rabâcher, et en tordant le bras à la science à chaque fois, voire en truquant les résultats de données. Simplement, pour beaucoup de journalistes, il était un grand scientifique. Donc il n'y avait aucune raison de douter de ce qu'il racontait.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Au fond, c'était le papa du climato-scepticisme.
Comment?
Oh, bah, non, il y avait d'autres. Il était plutôt suiveur sur une tendance qui était déjà bien lancée
France,
ailleurs.
Non, il était vraiment à l'initiative.
Il était leader.
Et en plus, il était relayé par l'un de ses adjoints à l'Institut de physique du globe, qui était Vincent Courtillot. Mmh. Ils étaient tous les deux membres de l'Académie des sciences. Et l'Académie des sciences a eu une position extrêmement ambiguë pendant des années, puisque à l'époque, la secrétaire perpétuelle était climato-sceptique aussi, et qu'un certain nombre de physiciens, notamment de spécialistes des sciences de la Terre, étaient des climato-sceptiques convaincus.
Oui, alors effectivement...
Il y avait un terreau fertile.
Mais c'est vrai qu'Allègre avait de ce point de vue... 20 ans plus tôt, porter la contradiction à Arun Taziev, qui était un petit peu une vedette du volcanisme, qui nous a fait rêver quand on était gamin avec ses émissions, mais qui, sur certains sujets, moi je l'ai un peu connu, Arun était sanguin, quelquefois il prenait des risques, y compris avec la vérité, mais il était un peu autodidacte, il n'avait pas un parcours académique, mais par contre il avait une aura médiatique et internationale, grosso modo c'était le commandant Cousteau des volcans, et Allègre lui avait porté contradiction sur une histoire de
la
soufrière, une prédiction de trucs, et il avait eu raison. Et c'est vrai que pour nous journalistes, on disait bon, Allègre, ça pour moi c'est du scientifique costaud, c'est sérieux.
Mais je crois que Taziev s'était un peu trompé sur le Mont Sainte-Hélène.
Oui, mais Taziev, c'est un personnage, et puis quelque part, il était. C'est un aventurier, Taziev. Et il était, il se prétendait pas autre chose, quoi. Et de ce point de vue-là, il était tout à fait sincère. Bon, après, on l'a vu faire des choses dans l'Isère avec M. Carignon. Bon, je pourrais vous raconter des blagues, mais... mais c'est un personnage. Donc, effectivement, le Claude Allègre, qui était à Jussieu, qui était à deux pas à l'Institut du Globe, qui était à Paris 7, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, ou Paris 6 plutôt, c'était dans la même halle au 20, l'ancien nom de Jussieu. C'était difficile de se dire que ce personnage, qui était aussi ministre de la
catastrophe
de l'éducation. Oui, bon, il sort du mammouth, mais...
Taziev a été secrétaire d'État au risque naturel.
Au risque naturel.
Oui.
Absolument.
Ouais. Mais ça
c'était avant.
C'était un peu avant. Par contre, Taziev, il nous a raconté des bêtises. Il nous disait que les PCB, c'était pas dangereux. Il en mangeait à la petite cuillère. Mais
d'ailleurs,
je l'ai vu
il
faire.
En est mort.
Je sais pas s'il est mort de ça. En tout cas, il en est pas mort trop vite. C'était une mort lente. Mais effectivement, grosso modo, on pouvait avoir des...
Ce qu'on évoque, en fait, c'est tout simplement qu'il faut faire attention à des scientifiques quand ils sortent de leur terrain de
compétences, oui, parce que grosso modo, c'est vrai que Allègre, c'était le champion de l'analyse des pierres de lune. Ce qui a aussi fait sa réputation mondiale. Mais c'est pas parce que tu sais analyser la composition chimique de la lune que tu es compétent sur le climat, quoi.
Mais... Le sujet tel qu'il est traité par toi, Valérie, c'est pas seulement sur le climat.
C'est toutes les sciences de l'environnement.
C'est toutes les sciences de l'environnement.
Effectivement, le climat prend une place un peu importante parce que c'est l'un de mes dadas. Mais Béatrice a su me cantonner.
D'accord. Ouais, parce que j'ai entendu dire qu'au départ, c'était beaucoup plus que 346 pages.
Il a suffi de baisser le corps.
Ah d'accord.
Changer la police.
Bon. On va pas rentrer dans les coulisses de la fabrication des livres, même si en soi c'est intéressant comment on fabrique un livre.
C'est intéressant aussi de voir quelles sont au fond les armes dont on dispose pour pouvoir vraiment traiter les questions environnementales.
Les armes, ce sont les fondamentaux qu'on évoque. C'est le droit de l'environnement, c'est les sciences de l'écologie, c'est l'histoire, et c'est de la méthode.
Oui, parce que grosso modo, ce que vous dites pas, c'est qu'il aurait fallu faire telle ou telle formation initiale pour faire de l'environnement.
Non, bien sûr que non. Tout est dans les livres, tout est accessible. Il suffit de se plonger dans les bouquins, éventuellement dans quelques
bons manuels.
Dans quelques bons manuels ou dans quelques Wikipédia quelconque. Et il y a tout ce qu'il faut. Après, il faut y consacrer du temps. Il faut souvent aussi dialoguer avec des scientifiques. Mais bon, ça, on a une certaine facilité pour ça. Tout est à notre disposition. Il faut y consacrer du temps, c'est vrai.
Oui, mais c'est ça, grosso modo. Parce que, quelque part, ce qui est important, me semble-t-il, pour pouvoir parler d'environnement, c'est pas de couvrir toutes les disciplines nécessaires, parce que c'est effarant.
Ce serait pas possible.
Voilà, ce serait pas possible, on pourrait en reparler. Mais au moins d'en avoir traité une et avoir acquis la rigueur scientifique qui correspond à toute discipline. Et après, effectivement, s'ouvrir à la pluridisciplinarité. Mais une fois qu'on a acquis une bonne méthode, ça aide. Et je crois que je me demande si c'est pas d'ailleurs une de tes citations. Le problème, c'est les écoles de journalisme. J'ai cru comprendre que fondamentalement, il s'agissait d'apprendre à faire vite. Et pour être le premier conseil, semble-t-il, que tu donnes pour bien traiter l'environnement dans les médias, c'est de savoir prendre le temps.
Autant que faire se peut.
Et alors, comment on fait justement quand tu as un rédacteur en chef qui veut forcément la réponse avant de t'avoir posé la question la plupart du temps?
Le raccourci le plus évident, c'est de contacter un ou des scientifiques qui sont des bons connaisseurs de la question et s'ils sont un tout petit peu pédagogues, ils sauront vous donner quelques fondamentaux pour pouvoir traiter le sujet. Ça, c'est le système le plus simple.
Mais ça prend, on est déjà dans un rythme à minima hebdomadaire.
Non, pas forcément. Après, il faut savoir enrichir son carnet d'adresses et savoir à quelle porte taper. Mais il y a aussi des services de communication, des grands centres de recherche ou des institutions qui peuvent nous aider. Il ne faut pas hésiter à s'en servir non plus quand ils existent ou quand ils sont efficaces.
Mais fut un temps, on avait l'impression qu'il y avait... parce que pendant longtemps, les journalistes qui traitaient de l'environnement se plaignaient qu'ils n'avaient pas assez de place. D'ailleurs, dans le bouquin, vous développez l'argument que le sujet n'est pas suffisamment traité, qu'on ne leur accorde pas assez de place. Et en même temps, il y a eu des périodes où, on va dire, l'environnement était presque à la mode. Et en tout cas, dans les services de presse et dans le monde scientifique, ils n'en pouvaient plus de répondre à toutes les sollicitations. Et moi, ça m'est arrivé de voir des gens que j'avais côtoyés quelques années auparavant qui décrochaient plus parce qu'ils avaient l'impression qu'il fallait toujours tout expliquer, les bases aux journalistes.
Sont là pour ça aussi. Ça fait partie de leur métier. Et je crois que depuis 30 ans, les scientifiques ont beaucoup progressé dans la communication et la vulgarisation. Il y a de plus en plus de scientifiques qui sont ou formés ou en contact régulier avec les journalistes et qui savent comment nous parler. Et ça, c'est très précieux.
Oui, on peut lancer la musique ?
Dans quel moins vin li fe. E mwen pare pou mwen goume. Si mwen ni fwe an mwen, eve mwen. Bonjou Kevin, nou pe ganye. Nou pe ganye. Mwen kamande mwen pou ki rezon nou kakoume. Si si a ti moun an mwen Se pite ka fè mwen pè Si si yon jou kite mwen
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien voilà, vous avez tous reconnu Delgrès, le groupe antillais que j'adore moi, c'est tout simple. Voilà, ça me fait voyager, ça me donne la pêche. Donc on est revenu, vous êtes toujours sur Aligre FM, hein, on est dans les arènes de l'écologie avec Valérie Laramé qui nous présente son livre « Bien traiter l'environnement dans les médias ». Donc effectivement, alors ça ne s'adresse pas uniquement qu'aux jeunes journalistes, ça s'adresse à tout le monde, mais ceci étant... je dirais que tout le monde peut lire parce que c'est vachement sympa. Parce que d'abord, ça prend. Il y a comment dire, une vision historique. Et puis, ça analyse dans le détail les, tel et tel sujet. Il y a des sondages. Non, je ne fais pas de pub. Mais bon, écoute, il l'a écrit. Fais souhait, quoi, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, c'est typiquement le genre de bouquin que. Que bah, les journalistes qui ont un peu de bouteille comme toi et puis un petit peu comme moi, on aurait aimé écrire quoi. Bon, alors ça va circuler dans toutes les écoles de journalisme, c'est ça ? C'est
comment ça ? Espérons-le.
Bah oui, alors. Et puis bon, c'est aussi beaucoup de. Je sens que tu donnes aussi beaucoup de conseils pour les rédacteurs chefs quoi.
C'est effectivement l'un des verrous à lever, c'est que depuis des décennies, les rédacteurs en chef ont une considèrent que ce qui est le plus important, c'est la politique, puis l'économie, et puis après, on voit en fonction de la ligne éditoriale du titre, oui. Mais l'écologie a toujours été aux abonnés absents, en règle générale. Donc, ce que nous voulons raconter avec Béatrice, et on essaiera de convaincre les rédacteurs-chefs et les directeurs de la publication, c'est que l'écologie, c'est partout. C'est que ça impacte tous les sujets, que ce soit le social, l'économie évidemment, même le sport collectif. Car le réchauffement climatique a d'ores et déjà un impact sur les sports collectifs.
Oui, et puis les sports collectifs ont aussi un peu d'empreinte carbone. Mais bon, il y a des associations qui s'occupent de ça, qui traitent du sujet. On sera sûrement amené à les rencontrer, à les faire venir à ce micro. Alors, pendant la musique, non seulement vous n'avez pas écouté les sonorités antillaises sympas, mais vous avez abordé, Ben et Valérie, vous avez abordé une question qui est intéressante en disant qu'il y avait deux écoles pour parler du journalisme. Soit on le met dans son... dans sa chambre à part, et soit on essaye de le diluer dans l'ensemble, ou du moins d'en nourrir l'ensemble des chroniques. Alors Valérie, là j'ai fait la question de Ben, recommence ta réponse. Tu nous disais qu'il y avait deux canards qui avaient réussi ça.
Alors en gros, effectivement, il y a ces deux écoles qui s'affrontent. Il y a deux grands quotidiens britanniques pour l'instant qui ont franchi le pas, et dont les directeurs ont demandé à tous leurs journalistes de considérer l'environnement et le climat comme faisant partie intégrante de leur grille d'analyse. Et donc, quelle que soit la rubrique, de l'automobile au sport, en passant par les ressources naturelles, la politique évidemment. Donc, tous les journalistes de ces deux grands quotidiens ont cette nouvelle puce dans leur tête et s'occupent de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas en plus une rubrique environnement, mais tous leurs autres confrères traitent de ça.
Donc c'est comme s'il fallait dans tous les plats pouvoir mettre un ingrédient, un épice, environnement, quoi.
En quelque sorte, mais ça permet aussi de changer de focale. C'est-à-dire qu'on contextualise un sujet différemment. On sait par exemple que c'est très bien, si on est le journaliste automobile, on est ravi qu'un nouveau modèle apparaisse, mais on se dit, est-ce que, en plus, quelles sont ses performances environnementales, est-ce que climatiquement c'est bien ou pas bien, etc. Des questions qu'il n'aurait jamais posées avant.
Oui, c'est vrai que quand on les posait, quelquefois c'était folklore. Les réponses étaient un peu... Quand des journalistes environnement réussissaient à s'introduire dans la caste des journalistes automobiles, je me souviens d'un voyage de presse en Angleterre chez Land Rover, c'était folklore. On n'était pas du même monde.
Puis il y a la rubrique qui est la géopolitique de l'environnement. Donc on a au niveau international aussi, on a quand même fait que...
Bien sûr. Alors, on voit que l'environnement sont des sujets, l'environnement et le climat sont des sujets de géopolitique. Ouais. On l'a vu avec l'administration Trump, mais on le voyait avec toutes les administrations américaines avant elle. Et on voit que ce sont des sujets qui sont au cœur des relations internationales. Si on regarde ce qui se passe en Asie, il y a une demi-douzaine de pays qui sont prêts à s'affronter pour le contrôle du Mékong, par exemple. Le contrôle par la Chine d'un certain nombre de très grands fleuves chinois pose des problèmes de sécurité nationale à l'Inde en particulier, mais pas seulement. Donc on voit bien, c'est un sujet qui touche à tout.
Ouais. Oui, mais alors justement, c'est devenu presque des marronniers, les COP climat. Donc au moins, ça revient fin novembre et ça occupera la première semaine de décembre. C'est presque un rite. Et il y a eu aussi, on en est à la 30e, je ne sais pas. Donc c'est... Et alors que le sujet, oui, donc depuis la première en 95 à Berlin. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça use l'attention. Les gens ont l'impression que ça ne bouge pas, que ça n'a pas avancé. Alors c'est vrai que c'est pas facile, tu nous diras ça, de réussir à contextualiser, mais entre 95 et aujourd'hui, malgré tout, est-ce que toi tu vois des... qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes générations des progrès ou au contraire l'augmentation des inquiétudes?
Déjà, il faut leur rappeler ce qu'est une COP. Une COP, c'est une espèce de parlement mondial du climat où la voix de chaque pays vaut la voix de chaque pays. Donc les États-Unis ne sont pas plus importants que le Liechtenstein. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'il faut arriver à des décisions consensuelles. Si on a un regard rétrospectif, on peut se dire qu'il y a 30 ans, il y avait moins de 180 pays qui siégeaient à la COP. Et il s'agissait de, en gros, sauvegarder le climat à un niveau non dangereux pour l'être humain. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, on ne savait pas ce vers quoi ça nous menait. En 1997, protocole de Kyoto, premier accord contraignant qui va obliger 40 pays, les 40 plus industrialisés, à baisser de 5% leurs émissions en 20 ans. On y est arrivé et aujourd'hui, tous les pays partis à l'accord de Paris doivent faire des politiques climat d'atténuation, donc de baisse des émissions, d'adaptation, doivent améliorer ces politiques tous les 5 ans et tenter de suivre les trajectoires qui leur sont proposées par le GIEC. Donc en gros, baisser de 40% les émissions d'ici à 2030. Ça, c'est fondamental parce que ça veut dire qu'il y a quand même une vraie gestion mondiale, internationale, du changement climatique. On essaie d'y aller. on essaye de transformer des modèles économiques alors que le monde reste divisé en trois. Il y a les pays industrialisés les plus riches, en gros les pays de l'OCDE et la Chine. Il y a les pays émergents, le Mexique, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, etc. Le Brésil. Et les autres. Et dans ces autres-là, il y a différentes catégories. Il y a les pays pauvres, il y a les pays très pauvres, il y a les petits pays liens du Pacifique qui sont en train de se faire submerger. Donc chacun voit le problème à sa porte. Les urgences ne sont pas les mêmes, les moyens d'agir non plus. Donc on voit bien que c'est terriblement compliqué.
Alors est-ce qu'une façon de traiter bien l'environnement, c'est de mettre les choses en perspective et de pouvoir, entre guillemets, raconter des histoires, le fameux storytelling? Est-ce qu'il n'y a pas un storytelling à faire sur 30 ans de climat quand même, 30 ans de COP?
Il y en aurait plusieurs.
Ouais.
Il y a un storytelling historique, je viens d'en esquisser les principales étapes. Il y aurait un storytelling juridique, qu'est-ce qui a évolué? On est passé d'une convention extrêmement vague à des accords très contraignants. Il y aurait un storytelling économique, le remont de la finance carbone en quelque sorte, ou comment des États qui étaient des États très libéraux se sont mis à imaginer des taxations du carbone d'autres moyens de réguler par l'économie les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a plein de storytelling possible.
Oui, donc 30 ans de climat ça, ou de COP, ce serait un vrai sujet ça.
Tu cherches un sujet.
Ah non, mais je ne cherche pas, c'est mon côté. Mais bien évidemment, mais le problème, c'est de raconter ça à nos enfants. Comment dire ?
Oui, alors c'est la dimension pédagogique de l'ouvrage, j'imagine. C'est aussi de s'adresser aux petits jeunes.
Alors, on essaie de s'adresser aux petits jeunes journalistes, en tout cas, c'est déjà ça. Mais on essaie aussi de s'adresser aux journalistes qui ont de la bouteille et qui tombent dans le bain vert sans forcément l'avoir voulu. Parce qu'on a tous changé de rubrique au cours de nos carrières. On nous a parfois cantonnés dans un bureau qui n'était pas forcément le nôtre au démarrage. Et il faut bien acquérir des réflexes, il faut bien acquérir des connaissances de base pour pouvoir progresser dans cette nouvelle rubrique. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. C'est pour ça qu'on l'a écrit le plus simplement possible, sans forcément prendre des raccourcis. Et je pense que c'est un pari assez réussi, parce que finalement, les premiers lecteurs, le livre vient de sortir, sont aussi bien des communicants que des journalistes, et tous y trouvent leur compte pour l'instant.
Tu l'as présenté, comment dire, tu as fait des dédicaces déjà ou tu vas en faire?
On va faire des dédicaces, on va faire d'autres médias, d'autres interviews.
C'est donc Radio Aligre est quand même pas la première.
Conférence de
Radio Aligre est la première.
Waouh.
Devant RFI.
Waouh. Bah écoutez, hein, on va le faire savoir.
Là, on est très fiers.
On est très fiers. Oui. Bon. J'en perds mon latin. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ben, aide-moi.
Ouais, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui n'a pas été dit. Mais comme je n'ai pas lu le livre, je ne peux pas...
Ah, t'as pas encore lu le livre.
Je ne peux pas parler.
Moi non plus. Moi, je l'ai parcouru parce que j'en ai une version PDF.
Parce que c'est un angle journalistique. C'est d'essayer de voir là où ça pêche, éventuellement. Non.
Qu'est-ce qui pourrait nous permettre aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans les rédactions un besoin de trouver des angles pour parler de ces sujets-là?
Comme pour chaque sujet, je veux dire, il y a toujours besoin d'anglais en fonction de la politique éditoriale et du sujet. Ça, c'est, évidemment, mais c'est un principe de base.
Oui.
Là où ça devient intéressant, c'est si effectivement, ou le chef de rubrique ou le rédacteur en chef a quelques notions d'écologie, parce que ça va faciliter la détermination de l'angle. Alors que si il a vu un communiqué de presse ou une déclaration, puis qu'il dit « Tiens, fais-moi quelque chose là-dessus », il n'y a pas d'angle, et pour peu que le journaliste ne soit pas un connaisseur du sujet, il va complètement s'en mêler les pinceaux.
Oui, parce que bien souvent, ce qu'on nous disait quand on voulait proposer des sujets un peu sur ces thématiques-là, c'est le rédacteur-chef nous disait « Ah, mais je ne sais pas dans quelle rubrique le mettre. » Donc,
en fait, la réponse, c'est s'appeler partout.
Oui.
Mais ça, ils ne sont pas encore prêts à l'entendre.
Bon.
En tout cas, en France.
Alors, par contre, aujourd'hui, il y a toujours autant de journalistes pigistes ou plus? Comment la sociologie du métier, ça, c'est comment?
C'est un métier qui se précarise d'année en année. Ça, c'est malheureusement pas une nouveauté. C'est un métier qui est de moins en moins bien rémunéré. C'est un métier qui... comment dire, pour lequel il faut vraiment avoir le feu sacré, parce que les contraintes deviennent telles que ça devient de plus en plus compliqué de bien travailler.
Donc c'est un paradoxe, parce qu'à une époque, on devait aller livrer nos articles sur des disquettes, souvent on y allait à vélo. Aujourd'hui, tout ça, c'est par Internet, par mail. Mais au final, les journalistes manquent encore plus de temps, et les rédactions manquent encore plus de temps qu'auparavant. Quoi.
Et les rédactions manquent encore plus d'argent qu'avant.
D'accord.
Donc là où il fallait, par exemple, c'est un exemple un peu caricatural, mais enfin qui existe. Aujourd'hui, un reporter qui part pour faire un reportage, il va devoir faire un papier, il va devoir faire une petite vidéo, des interviews radio et les photos. Alors qu'auparavant, il y avait 4 personnes pour faire ça. Malheureusement, il faut faire tout ça dans le même temps. Donc évidemment, on ne peut pas consacrer autant de temps qu'il faudrait à l'analyse, à prendre du recul, à éventuellement demander des conseils ou des informations complémentaires à d'autres experts. Il faut tout faire en rush. Et c'est aussi pour ça que ça devient, que ça précarise. C'est que il faut faire beaucoup plus vite et pour le même prix.
Ok.
Je pense que la question dans la méthodologie, d'avoir un minimum de savoir sur la question est fondamental.
Bien sûr.
Quand on va voir le préfet
maritime de Brest. On peut passer la musique à 43.
Si on lui dit, est-ce que la France a jamais immergé des déchets radioactifs ?
Au hasard.
Il va répondre non. Mais si vous lui dites, à partir de quand est-ce que vous avez arrêté l'immersion des déchets radioactifs ? Là, il sait que vous savez. Et je pense que là, ça change aussi la donne.
Bien
et
sûr.
Il est obligé de répondre différemment.
Bien sûr.
Donc c'est intéressant d'avoir ces notions de base.
Oui, mais ça, c'est des astuces de vieux routiers du métier, quoi.
Oui, mais nous sommes de vieux routiers.
Oui, tout à fait. Non, mais... tout à fait. Et depuis quand as-tu arrêté la radioactivité, Ben ?
82.
D'accord.
Enfin, il y a toujours des vieux restes de potassium 40 dans ses eaux.
Mais bon... C'est important de voir, et en même temps, alors là, il doit y avoir un travers, c'est qu'on ne peut pas non plus être dans un espèce de vase clos seulement sur ce genre de rubrique. Et je pense que moi, j'ai rencontré quelques journalistes, des collègues, à la conférence UNOC sur les océans, conférence de l'ONU sur les océans à Nice, c'était en juin, je crois. Et j'avais l'impression quand même que ces journalistes-là n'étaient pas très intéressés par ce qui se passait ailleurs. Ils avaient chacun leur
petit circuit. Eh bien, on y répondra à cette question après la musique qu'on va nous envoyer.
Completely, how my heart yearns for you. shiny diamond, the upper way. We're gonna talk and talk about it. And when the day is over, give me love that I could never doubt it. So never do it the why. This man is testing me. Help me. Oh, baby, where the hell is my husband? What has taken him so long to find me?
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien, nous sommes toujours dans les arènes de l'écologie sur Allegre FM 93.1 et avec Valérie Larmé pour parler de son livre, bien parler d'environnement dans les médias. Le sujet vaste, on a 25 000 questions et on ne sait plus par laquelle commencer. Alors, c'est aussi un peu pour ça qu'on a demandé une question surprise à Séverin. Donc, le principe dans chaque émission, on demandera à un invité de répondre à une question d'un ancien invité. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on devrait s'en sortir. Séverin, tu m'entends ? Voilà. Eh bien, écoute, on va te mettre à l'antenne et puis tu vas pouvoir poser ta question à Valérie. Et puis, en attendant, je vais te présenter en deux mots. Donc, Séverin est un géographe, libre géographe. Ah, il paraît qu'on a un problème de Bluetooth. Je ne sais pas. Bon, pour moi, tout marche, mais bon, je ne connais que dalle. Non, je ne devrais pas dire ça à l'antenne. Hein.
Non.
Non. Mais bon, ça fonctionne ou pas, les amis ?
Ce sont les joies du direct.
Oui, c'est ça. Bon, en attendant, je vous explique qui est Séverin, qu'on aura peut-être ou peut-être pas. Hein. Voilà, Séverin, tu peux parler.
Je pose ma question.
Voilà, pose ta question, Séverin. Je t'explique, je te présenterai après.
La plupart du temps au Brésil, et donc il va justement y avoir la COP dans la Madeleine. Et la question que je me posais, c'est en dehors des approches qui sont propres à chaque pays par rapport à la question climatique, comme je l'ai dit, à peu près avec trois blocs, est-ce qu'il y a quand même des singularités, alors qu'elles soient par des, on va dire, des écoles de journalisme régional ou des individus qui vont se distinguer par rapport, on va dire, dans le milieu de lectorat dans lequel ils vivent et pour le journal pour lequel ils travaillent. Est-ce qu'il y a des approches qui vont être différentes? Est-ce que vous imaginez que un confrère aurait, par exemple, au Brésil, fait un ouvrage d'une manière, je dirais pas complètement différente, mais avec des aspects qui seraient différents, liés à la fois à sa culture et dans le milieu dans lequel il est perçu la question environnementale.
Oh, sans aucun doute, je pense qu'un confrère ou une consoeur brésilienne consacrerait sans doute beaucoup plus de pages que nous ne l'avons fait aux questions économiques et en les abordant différemment. Je pense qu'il traiterait peut-être beaucoup plus d'équité et d'inéquité que nous l'avons fait. Peut-être qu'il parlerait plus des mécanismes économiques que va proposer le gouvernement brésilien pour à la fois lutter contre la déforestation de la forêt amazonienne, récupérer de l'argent et éventuellement inciter les investisseurs du Nord à mettre plus d'argent dans les économies des pays du Sud. Oui, je crois qu'effectivement, chacun voit le monde en fonction de l'endroit où il travaille, de sa culture et de ses centres d'intérêt.
Bah justement, est-ce qu'on ne souffre pas d'un certain hexagonocentrisme dans dans notre presse. Est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a d'autres modèles de presse à l'étranger que tu as peut-être pu côtoyer durant ta longue carrière de journaliste environnement? Est-ce qu'il y a une spécificité française là-dessus?
Moi, je trouve en général que les journaux français sont effectivement très hexagonaux centrés. D'abord, on ne parle jamais des territoires ultramarins, alors que si on prend la question environnementale et énergétique, les gouvernements français ont toujours voulu, paraît-il, faire de ces territoires, notamment les Antilles et la Réunion, des vitrines technologiques qui restent encore à monter. Et effectivement, si on prend l'exemple du climat, c'est caricatural, mais c'est assez parlant. La presse française a, pendant longtemps, parlé deux fois par an du climat. C'était au démarrage de la COP climat et à la fin.
Donc 15 jours.
15 jours. Donc au démarrage, on disait la COP climat va avoir lieu. Et à la fin, on disait ça a été un échec. Mais on n'expliquait pas ce qui avait été débattu. C'est rarement un échec complet parce qu'on traite de tellement de questions dans les COP qu'il y a toujours des choses qui progressent, d'autres effectivement qui sont bloquées, d'autres parfois qui reculent un tout petit peu. Mais ça n'est jamais un échec total. Il y a toujours des choses qui progressent. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut dire aux sceptiques. C'est que ce grand processus de négociation internationale n'a cessé de progresser, n'a cessé de donner des résultats intéressants.
Donc, il faudrait faire un vrai plaidoyer sur 30 ans d'avancée malgré tout, quoi.
Ben, je crois qu'il faut regarder les processus onusiens comme ils sont. C'est-à-dire que l'ONU ne fait que ce que ses États membres lui permettent de faire. Et un processus de négociation où il y a presque 200 parties qui, grosso modo, ont des intérêts divergents, c'est sûr que ça ne peut pas aller très vite. Mais malgré tout, même en 30 ans, ça a progressé sensiblement.
Mais bon...
Là aussi, il y a toute une gymnastique qui intervient, parce que si on prend la question de l'eau, on s'aperçoit qu'il y a 8 ou 10 agences internationales et onusiennes qui s'occupent de ces questions-là. Mais on peut aussi bien d'ailleurs l'UNESCO, qui est à l'origine du programme hydrologique international, machin, que d'autres. Et on parle rarement d'ailleurs du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est toujours un machin, qui n'est qu'un programme. Bon, c'est difficile de s'y retrouver, je trouve.
C'est difficile de s'y retrouver, mais c'est l'histoire qui explique cette diversité, finalement. Parce que c'est parfois, comme vous l'avez dit, par l'UNESCO qu'on a fait progresser la cause de l'eau dans une région, en Asie ou en Afrique du Nord. C'est par d'autres agences qu'on leur a fait progresser ailleurs. Donc ça va dépendre aussi de l'implication des États dans différentes agences. Donc c'est pas forcément un mal qu'un même sujet soit traité dans plein d'endroits différents. C'est la même chose pour l'énergie, c'est la même chose pour le climat. Ça...
Mais justement, ce côté kaléidoscope qui manque un peu à la presse française, quoi. Alors que ce soit pour l'environnement, mais cette vision de global de la Terre, on ne l'a pas, quoi.
Non.
Alors, j'ai vu que tu avais mis Élisée Reclus en exergue dans les premières pages. Je ne te cache pas que ça m'a fait le plus grand plaisir. Je me sens moins seul. Mais justement, cette vision... Alors, je rappelle pour les auditeurs, Élisée Reclus, c'est quelqu'un qui, à la fin du 19e siècle, a réussi à faire la première géographie universelle, c'est-à-dire à l'âge de... Et en même temps, quand il était... Il voyageait à pied, parce qu'il avait quand il était jeune, il n'avait pas le sou. Quand il allait voir ses confrères en Allemagne et qu'il retournait dans le sud-ouest, c'était à pied. Donc, je crois qu'il marchait vite, hein, quand même. Il mettait quoi, 3 semaines pour faire le voyage. Mais bon, à cette époque où il n'y avait naturellement pas d'Internet, pas trop de chemin de fer et pas de voiture, eh bien... on réussissait malgré tout à avoir une vision du monde. La géographie universelle d'Élisée Reclus, qui était parue chez Hachette, mais bon, alors, je ne fais pas de pub parce que là, ça fait longtemps que le bouquin n'est plus en vente. C'est quand même, c'est hallucinant de voir qu'à cette époque, les géographes et puis d'autres étaient quand même capables d'avoir une vision du monde. Et aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut et on a une espèce de vision bordélique, donc, excusez-moi l'expression, mais on a beaucoup, beaucoup de mal à structurer ces grands équilibres, grands enjeux.
Déjà, la géographie était le métier des Élisée Reclus, donc qui s'intéresse à décrire le monde sous cet aspect-là, c'était
normal. Bien, on me dit qu'on a été trop long, qu'on a fait trop de tours du monde, et c'est la fin de l'émission, et on va se retrouver la semaine prochaine avec d'autres invités.
L'autre.
Donc la semaine prochaine, ce sera une émission sur la Cour des comptes, le premier rapport de la Cour des comptes sur la transition écologique. Et on la fera commenter par toute une panel d'associations qui nous donneront leur point de vue pour qu'est-ce qu'effectivement le bilan qu'elles tirent elles-mêmes de cette situation. Bon, je remercie tout le monde, la technique, Armand, Arnaud, et la prochaine émission qui va suivre sur les antennes d'Aligre FM, c'est Jazzland. Écoutez, à la semaine prochaine, bonne semaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.